France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Un ouragan, une révolution en cours dans le grand entretien. Une question en tout cas, quelle ambition pour la France en matière d'intelligence artificielle? C'est l'objet d'un rapport important qui était remis ce mercredi au président de la République. Vos questions, vos interventions, chers auditeurs, si vous n'êtes pas un robot, sur l'IA au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter. Pour en parler ce matin avec Marion Lourd, nous avons le plaisir de recevoir les co-président, auteur de ce rapport, Philippe Aguillon et Anne Bouvreau. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Philippe
Bonjour.
Aguillon, vous êtes avec nous en studio. Vous êtes l'un de nos grands économistes, professeur au Collège de France, spécialiste notamment de la destruction créatrice, et on aura l'occasion d'en parler. Anne Bouvreau, vous êtes présidente de l'École normale supérieure, mathématicienne, spécialiste de l'IA. Votre rapport est intitulé « IA, notre ambition pour la France ». Un document de 130 pages. C'est très pédagogique. On lit facilement les risques, les opportunités d'un monde irradié par l'intelligence artificielle, et vous formulez 25 propositions pour faire de la France un leader en la matière, en tout cas pour éviter de décrocher de cette accélération formidable de l'histoire. Avant d'entrer dans le détail de ces mesures que vous avez proposées dans votre rapport, cela fait maintenant six mois que vous travaillez sur le sujet. Philippe Aguillon, on va commencer avec vous. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé au cours de ces six mois à vous plonger au cœur de cette révolution en cours et dont on n'a pas toujours encore pris la mesure?
Bon, d'abord, ça m'a permis de rencontrer les grands acteurs du domaine, Yann Lequin, des gens
que
vous avez reçus et qui sont les grands acteurs de cette révolution, quoi. Donc c'est la première fois que je peux parler avec des gens qui ont été les acteurs d'une révolution technologique. Pour moi, c'était une chose abstraite. C'est des données et des modèles, mais c'était jamais des visages et des, donc ça, c'était là. Mais c'est vrai que c'est une révolution qui nous affecte. C'est le texte, c'est l'image, c'est des choses qui nous touchent de très près. Et c'est une accélération incroyable. Par exemple, Netflix, il a fallu 2 ans et demi pour atteindre 1 million de souscripteurs. ChatGPT, c'est 5 jours. Donc, c'est une incroyable accélération, quoi. Et on le voit, quoi. C'est perceptible. Et on voit que ça transforme tous les aspects de la vie, quoi.
L'accélération de l'histoire, Philippe Aguillon, ça porte un nom en économie. C'est une loi, la loi de Moore, qui avait été théorisée
pour
les transistors.
La loi de Moore, c'était l'idée que on pouvait augmenter le nombre de transistors par microprocesseur, par puce, doublait tous les 18 mois. Mais à un moment donné, ça devenait tellement petit qu'on pouvait plus simplement, il fallait trouver autre chose. Et ce qui a été crucial, c'est de dire on peut agencer les puces, on peut agencer les transistors différemment. Vous voyez, on peut mettre les transistors dans les puces différemment. C'est pas grand de doubler le nombre de transistors, mais on peut organiser les puces autrement.
Et
c'est ça qui a permis
l'IA.
Et du coup, on peut continuer d'augmenter la puissance de calcul. Et il fallait faire ça, il fallait ce passage-là pour que l'IA soit possible. C'est le pétrole de l'IA, ça a été cette chose-là, c'est qu'au lieu de dire on continue d'augmenter le nombre de transistors, on agence ces transistors autrement, et là du coup on pouvait augmenter la puissance de calcul beaucoup plus, et c'est ça qui vraiment sous-tend la révolution de l'IA.
Donc ce qui vous a frappé, c'est l'accélération. Anne Bouvreau, qu'est-ce qui vous a frappé? Vous qui travaillez déjà sur l'intelligence artificielle depuis de nombreuses années, vous êtes chercheuse, mathématicienne notamment, qu'est-ce qui vous a le plus étonné au cours de ces 6 mois de travail?
Mais écoutez, tout d'abord, je suis ravie d'être avec vous ce matin. J'ai pas pu être là en personne parce que je suis à Lille pour le festival Sérimania.
Mais on vous entend bien.
Voilà, et donc je vais pouvoir l'IA et le sujet d'ailleurs de l'intelligence artificielle de Sérimania.
Oui, c'est ça
année.
Qui est extraordinaire.
Parce que c'est une révolution qui impacte, Philippe le disait, tout ce qui a à voir avec les mots et les images depuis ChatGPT et l'intelligence artificielle générative. Et donc, forcément, le monde de la culture, professions créatives, sont parmi les premières regardent, qui se questionnent et qui réfléchissent à comment faire et qui s'inquiètent, bien sûr.
Philippe Aguillon, ce qu'on voit notamment avec votre rapport, c'est que d'après vous, oui. Anne Bouvreau et les personnes que vous avez rencontrées, oui. Cette intelligence artificielle, elle serait plutôt créatrice d'emplois, créatrice de croissance.
Absolument.
Croissance doublée, d'après vos calculs. Et sur les emplois, vous dites seulement 5% des métiers seraient menacés.
Vraiment menacés, oui.
Et les créations d'emplois compenseraient.
Absolument.
En clair, on a tort de s'inquiéter.
Alors, il faut toujours, ça ne veut pas dire que c'est, il faut être d'un optimisme panglossien, d'un optimisme béat. Je pense que non, parce que toute révolution technologique...
Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, Philippe Aguillon.
Voilà, tout ne va pas mieux automatiquement dans le meilleur des mondes. C'est-à-dire qu'il va falloir accompagner cette révolution technologique de changements institutionnels et de politiques appropriées. Formation, éducation, investissement, politique du marché du travail, politique de concurrence. Si on ne fait pas ça, alors on va dans le mur avec une révolution technologique. Mais si on accompagne avec les bonnes politiques, alors on peut faire beaucoup. Et c'est vrai que la chose très originale, une des choses très originales du rapport, c'est la première analyse vraiment avec un grand échantillon de firmes, et on montre que les entreprises qui adoptent l'IA créent des emplois par rapport aux entreprises qui ne l'adoptent pas. Alors c'est globalement, c'est l'emploi global, parce qu'un emploi c'est un ensemble de tâches. Donc l'IA, ce qu'elle fait, c'est qu'elle automatise certaines tâches. Du coup, elle vous permet de gagner du temps sur les tâches créatives notamment. Alors la plupart des emplois, c'est ce qui va se passer, ça nous obligera à travailler autrement. Mais il y a quelques emplois où presque toutes les tâches sont remplacées, et ça correspond à ces 5% dont on pense que là, vraiment, l'emploi lui-même sera menacé. Du coup, il faut une politique du marché du travail pour former et faire rebondir sur d'autres emplois les personnes concernées.
Mais ça, c'est sans tenir compte vraiment de l'impact des intelligences artificielles génératrices comme ChatGPT, par exemple.
Ah oui, tout à fait. Mais nous, on pense que ça s'applique de la même façon. Il y a eu des études déjà microéconomiques sur l'impact de l'IA générative. Et c'est pareil, on voit que c'est une proportion relativement faible d'emplois, dont quasiment toutes les tâches, vous voyez, seraient rendues redondantes par l'intelligence artificielle.
Mais ce ne sont pas n'importe quels emplois, justement. On va retourner à Lille et au Festival Cérimania avec Anne Bouvreau. C'était l'une des raisons qui ont poussé les scénaristes d'Hollywood à se mettre en grève pour la première fois de manière aussi dure de leur histoire, Anne Bouvreau. Justement, ils ont peur d'être remplacés tout simplement par des intelligences artificielles. Ça, c'est une menace qui est réelle, crédible, et sur un secteur qui engage la créativité, qui engage les imaginaires, comme vous le disiez il y a quelques minutes.
Oui, et d'ailleurs, c'est fascinant de voir à quel point l'intelligence artificielle est un sujet pour la création, pour les séries, pour les films, parce que ça nous permet, pour la science-fiction, parce que ça nous permet d'y réfléchir. Mais votre question, c'était, oui, la profession s'inquiète. Hein. La profession s'inquiète et réfléchit à comment prendre en compte cet outil, qui quelque part est un outil. Hein. C'est une profession qui a été changée par l'informatique, par l'arrivée de la photographie, par l'arrivée de la vidéo en haute qualité. Donc c'est un continuum d'évolution. Mais en termes de formation, notre recommandation de formation dont parlait Philippe, on recommande que pour la formation continue, les professions créatives soient parmi les premières à être formées. Il faut que tout le monde soit formé, mais qu'elles soient parmi les premières.
Alors c'est ça qui est passionnant, justement. Et pardon de vous interrompre, parce que personne ne sait si une intelligence artificielle va prendre votre travail, le travail du scénariste, votre travail d'économiste, Philippe Aguillon, notre travail de journaliste. Mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que celui qui s'en sortira, c'est celui qui maîtrise l'intelligence artificielle. Et c'est ça qui est fort dans votre rapport.
C'est que nous croyons.
Et c'est pour ça que sur la formation, sur la formation, nous on dit, voilà, il y a trois niveaux pour la formation. Un, c'est la sensibilisation. Dès la petite école, il faut que les enfants aient conscience qu'il y a un bon usage et un mauvais usage de l'intelligence artificielle. On propose aussi auprès du public des cafés IA, des grands débats IA, pour sensibiliser à l'IA. Mais ensuite, on pense qu'il faut une formation plus spécialisée. Par exemple, à l'université, on fait du droit. C'est droit et IA, médecine et IA. Et on voit à chaque fois comment intégrer l'IA dans la profession qu'on va apprendre à l'université.
Parce que plutôt on monte dans le train.
Voilà, exactement.
Et le plus de chances qu'on a de ne pas se retrouver au chômage.
Absolument. Et après, alors on prévoit formation de spécialistes IA qui vont développer l'IA et qui vont déployer l'IA dans les entreprises. Mais vous voyez, c'est à tous les niveaux qu'il faut mettre l'IA. Mais l'IA, c'est comme un... Vous savez, il y a eu toutes les grandes révolutions technologiques, on a eu peur, depuis les luddites, le mouvement des luddites et la révolution de la machine à vapeur, que ça crée du chômage de masse. Ça n'a pas été le cas. L'électricité, Keynes prévoyait chômage de masse. Il n'y a pas eu. Et
si,
en fait,
Philippe Aguillon, vous avez écrit sur la destruction créatrice. Oui. Tout le monde aujourd'hui cite Schumpeter qui a imaginé cette expression. On détruit des emplois,
mais on en crée d'autres.
Donc là, on est dans une révolution où on n'en sait objectivement rien, Philippe Aguillon.
On commence à savoir, puisqu'on voit déjà que les entreprises qui adoptent l'IA sont nettes créatrices d'emplois. Et pourquoi elles le sont? Parce qu'il y a ce qu'on appelle un effet de productivité, de compétitivité. Quand vous adoptez cette révolution technologique, vous devenez plus productif, donc plus compétitif. Le rapport qualité-prix augmente. Ça permet d'augmenter votre marché mondial, donc la demande pour votre produit et donc l'emploi. Et cette force-là, cet effet de productivité, de compétitivité, l'emporte globalement sur l'effet de substitution. Mais c'est vrai qu'il y a des emplois menacés et c'est là que la formation et l'organisation du marché du travail est importante. Moi, je suis très danois dans le marché du travail. Je crois beaucoup dans la flexi-sécurité danoise et je pense que plus que jamais, elle va être indispensable pour accommoder cette révolution de l'intelligence artificielle.
Et optimiste de nature.
Alors, vous l'avez présenté, ce rapport, Philippe Aguillon, avec vous, Anne Bouvreau, à l'Élysée, avec effectivement des préconisations en termes de formation. Il y a aussi des préconisations sonnantes et trébuchantes. Hein. Il faut trouver de l'argent, 5 milliards d'euros d'investissement public par an. Vous pensez vraiment, Anne Bouvreau, que là-dessus, vous avez été entendue, parce qu'on est en période de finances publiques restreintes?
Alors forcément, nous on fait des recommandations hein, et c'est au gouvernement de ensuite de décider ce qu'il faut être fait.
Mais comment il a réagi au moment de la remise du rapport de sa lecture?
Alors la remise du rapport, on a été écoutés, je pense entendus. C'était vraiment très très bien d'avoir le président, les ministres qui écoutaient tous les membres de la commission qui étaient présents. Et notre argument, c'est que c'est un investissement dans le futur. Bien sûr, il faut contrôler des dépenses et voir ce qu'on peut faire en fonction de nos moyens. Mais c'est un investissement dans la recherche et dans l'innovation de ce qui va faire le futur de notre pays et de tous les métiers. Donc ça nous paraît absolument important.
Je voulais compléter ce
Philippe
que dit Anne, qui a très très bien dit les choses.
Entendu,
c'est-à-dire
écoutez.
Que c'est-à-dire qu'en fait, nous on prévoit, c'est pour ça que l'analyse sur la croissance, on n'a pas parlé de l'impact croissance.
Si,
on prévoit que s'il y avait le même impact que la révolution des TIC, des technologies, d'information, c'est à partir de maintenant 1% de plus de croissance pendant 10 ans.
Donc deux fois plus
mais
que
on pense
ce qu'on
qu'en fait, c'est même pessimiste parce que l'intelligence artificielle non seulement permet en partie d'automatiser la production de biens et services, mais également la production d'idées. C'est-à-dire qu'on rend beaucoup plus productive la technologie de recherche.
Mais ça, c'est à condition, par exemple, donc, qu'on débloque l'argent, comme vous le demandez.
Non, voilà, exactement. Donc c'est-à-dire qu'il y a un énorme retour sur investissement. Et je crois que vraiment la doctrine, c'est de dire, on peut pas, mais exactement ce que dit Anne très très bien, on peut pas mettre sur le même plan des dépenses de fonctionnement. Vous voyez, les retraites, c'est pour réduire les dépenses de fonctionnement. La réforme des retraites, c'est en forme de l'État qui doit être faite également. Et des dépenses d'investissement dans la croissance. Parce que si vous augmentez votre croissance, vous augmentez votre capacité à rembourser la dette publique dans le futur.
Et vous savez bien qu'on a un budget restreint, malgré tout, qu'il faut boucler à la fin de l'année.
Compte, mais ce qui compte, c'est pas juste la dette, c'est la dette et la croissance. Et si on augmente la croissance, vis-à-vis des marchés, c'est très bien. Et la chose aussi à savoir,
philosophie
c'est que
d'un homme qui est le diable pour beaucoup, philosophie Draghi, c'est ce qui
Draghi. Et puis, à noter que ce qu'on propose, c'est 0,3% des dépenses publiques totales. Vous voyez, je veux dire, c'est rien
non
qu'on propose.
La recherche est déjà sous-dotée. La recherche est extrêmement en mal en point en France.
Oui.
Et vous avez l'impression, malgré tout, que la France pourra faire cet effort d'investissement public. Quand on regarde une start-up française IA générative, Mistral, elle vient de lever 450 millions d'euros. Oui. Facebook, c'est 10 milliards d'euros investis par mois dans le métaverse.
Mais nous, on pense qu'avec ces 5 fois 5, puisque c'est 5 milliards par an sur 5 ans, on va pouvoir faire venir des fonds privés, donc c'est un effet de leverage, comme on dit en anglais, et bien utilisé, ça peut faire une énorme différence, parce que on va permettre non seulement de faciliter l'entrée de nouvelles entreprises IA, mais de diffuser l'IA dans le tissu économique français, et de faire venir des capitaux privés. Il y aura un effet de levier très important. Donc je pense que, alors évidemment, c'est bien supérieur à ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, c'est 3 milliards sur 8 ans. Nous, c'est 5 fois 5 milliards. Mais ça fera une énorme différence comme effet de levier. Et évidemment, il y aura du capital privé qui va venir. Mais c'est toujours ça, l'idée du public, c'est faire venir du capital privé.
Bien sûr. Et Mario Draghi, c'est donc Goldman Sachs, c'est aussi la Banque Centrale Européenne, c'est la présidence du Conseil italien. On dit de lui qu'il a sauvé l'Europe en 2008, mais il représente aussi quelqu'un qui est synonyme d'austérité, justement, dans l'investissement des services publics en Europe. On va juste partir au standard pour retrouver Sophie. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Vous avez une question pour nos invités?
Oui, je pose une question basique qui touche tous les Français et qui est, est-ce que mettre l'IA dans les administrations françaises, c'est-à-dire la sécurité sociale, l'Expo, l'emploi, le fisc, les administrations fiscales, ça ne va pas rendre le système déjà inhumain, encore plus inhumain? C'est-à-dire que dès que les directives seront mises dans l'IA, on se posera plus de questions, elle va obéir, et puis les Français, ils vont en pâtir encore plus.
Qui veut répondre ?
Moi, je veux bien.
Anne ?
Oui, merci pour votre question. C'est une question qui est très importante. Dans les services publics comme ailleurs, ça dépend de comment on le fait. Et je pense que c'est très important d'utiliser l'IA là où elle peut aider. Par exemple, pour avoir des réponses plus rapidement aux questions qu'on peut avoir vis-à-vis des services publics. Et là, elle peut beaucoup aider. Mais il faut qu'au sein de l'organisation du travail dans les administrations, on en profite pour réallouer le temps des agents à justement les dossiers les plus compliqués, le contact avec les personnes quand il y a des choses importantes à faire. Et si on fait cette mise en œuvre à travers du dialogue social, qui est une des choses qu'on prône beaucoup dans notre rapport, on pense qu'au contraire, ça peut être quelque chose qui n'est pas inhumanisant, mais humanisant.
Philippe Aguillon, une question importante avant de revenir aux auditeurs d'Inter et notamment aux standards. Quand on voit une entreprise qui est l'entreprise symbole en France de l'IA aujourd'hui, c'est Mistral. Mistral qui est en pleine révolution. On a eu l'occasion d'entendre sur notre antenne Arthur Mensch. Il a eu besoin pourtant de lever des fonds et parmi les fonds qu'il a levés, il est allé voir Microsoft. Donc, est-ce qu'il y a une IA à la française ? Est-ce que ça a un sens ou est-ce que les questions de nationalité sont complètement dépassées par le fonctionnement de ces grandes entreprises ?
Elles existent, elles sont incontournables, mais on pense que, par exemple, pour puissance de calcul, données, on a des grands atouts en France. On a des chercheurs formidables, on a de très bons mathématiciens, notamment une formation scientifique excellente. On peut donc tirer parti de ces talents que nous avons. On peut faire des modèles spécialisés. Donc, il y a plein de gens qui ont beaucoup d'idées pour faire des modèles spécialisés. Il nous faut plus de puissance de calcul et on a des données formidables. Vous savez, des données de santé, par exemple. Mmh. C'est une mine d'or en France. Il faut mieux les utiliser. C'est pour ça qu'on propose d'enlever les autorisations préalables pour l'utilisation par les chercheurs des données de santé.
Quand même.
De s'aligner sur la RGPD.
Mais c'est délicat de mieux ouvrir les données de santé, de laisser nos données de santé comme ça plus ouvertes au monde.
Ça ne veut pas dire que c'est non régulé. On recommande de s'aligner sur le règlement général de la protection des données, qui est ce système européen, pour protéger les données. Mais qui est un système qui opère beaucoup a posteriori, c'est-à-dire que les agents sont responsabilisés et ex post, on voit s'ils ont fait ce qu'il fallait ou ce qu'il ne fallait pas. Voyez. Alors, ça ne veut
en
pas dire qu'il n'y a pas...
Fait ce qu'il fallait.
Il ne faut pas demander des autorisations, mais il faut alléger. C'est-à-dire que même maintenant, la CNIL n'arrive pas, parce que il y a tellement de demandes d'autorisation que les gens doivent attendre 18 mois pour pouvoir avoir des chercheurs pour utiliser des données de santé. Donc ça fait qu'on n'est pas du tout compétitif sur la recherche dans ce domaine, alors que nous avons une base de données formidable et des chercheurs tout à fait excellents. Peut-être Anne veut rajouter quelque chose à ce sujet.
D'un mot, oui. Anne Bouvreau.
Oui, alors sur la qualité des chercheurs, absolument, c'est une des grandes chances et c'est grâce à ça qu'on est dans une position de pouvoir investir dans l'intelligence artificielle. Mais on a un grand risque, en particulier en IA, que la recherche soit privatisée et que ce soit les gens de la Silicon Valley ou autres qui en fassent une recherche privée.
Oui.
On a une de nos recommandations qui est de continuer à investir et beaucoup plus dans la recherche en intelligence artificielle, puisque c'est notre sujet, pour notamment la recherche publique, pour pouvoir rester à la pointe de ce domaine qui, Philippe l'a dit, c'est pas quelque chose qui est maintenant là et qu'il faut déployer, c'est quelque chose où il y a des nouvelles inventions toutes les semaines.
De nombreux auditeurs d'Inter insistent sur la consommation de ressources, d'électricité, d'eau, d'une pareille technologie. On aura l'occasion d'y revenir, mais puisque vous êtes toujours dans cet univers des séries, Anne Bouvreau, un mot quand même entre le deepfake et la fiction. La frontière est parfois très mince. On voit par exemple qu'il y a eu beaucoup de captures d'écran du président de la République, manipulées par l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, par exemple, c'est l'un des risques les plus importants pour vous du développement de l'IA ?
Alors c'est un risque important. La désinformation, ça existe depuis toujours, hein, et tout le monde a toujours essayé d'utiliser les dernières technologies pour en faire. On peut faire des choses beaucoup plus impressionnantes aujourd'hui. Il faut à la fois réguler. Il faut demander à ce que les images mentionnent quand elles utilisent l'intelligence artificielle.
Oui.
Mais il faut aussi éduquer. C'est ce que disait Philippe. Et dès le plus jeune âge, à ce qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est crédible de voir une image du pape dans une doudoune blanche de luxe ou pas. A priori, c'est pas crédible, mais quand on n'y a pas réfléchi, on pourrait se laisser prendre. Donc il y a à la fois de la régulation et puis de l'esprit critique et de la discussion. C'est des sujets vraiment importants.
Vous aviez une question sur le climat.
Le mot de la fin, Philippe Aguillon. Non, pas sur le climat, on aura l'occasion de faire une émission entière consacrée à l'écologie et aux nouvelles technologies. Mais qu'est-ce que c'est qu'une IA bienveillante? Ce sera le mot de la fin, il faut qu'on rende l'antenne.
C'est une IA au service des citoyens. C'est vraiment une IA qui facilite le dialogue social. C'est une IA qui permet vraiment de dire, voilà, les tâches rébarbatives, j'économise dessus pour pouvoir être davantage créatif. C'est une IA qui permet la mobilité sociale. C'est très intéressant de voir que, par exemple, des entreprises qui ont utilisé le chat GPT, oui. Eh bien, les gens les moins productifs sont devenus plus productifs. C'est une IA qui réduit les inégalités, qui augmente la mobilité, qui suscite le dialogue social, qui permet le dialogue entre les personnes. Vous voyez, c'est une IA vraiment qui permet vraiment une croissance inclusive et dans le dialogue.
Et donc, il y a malgré tout quelques raisons d'espérer. Merci infiniment à tous les deux.
Merci.
Votre rapport est passionnant et il est en ligne, on le trouve très facilement sur le site du gouvernement.